voix est libre. Au FM 93, voici Luc Lavoie.
Allô, Luc Lavoie.
Allô, Myriam, ça va?
Oui, es-tu angoissé? Es-tu fébrile? Les deux gouvernements cette semaine vont nous révéler leurs secrets budgétaires.
Ni un ni l'autre. Je suis ni fébrile, ni nerveux, ni quoi que ce soit. D'Ottawa, je m'attends à un budget assez banal, finalement, qui va donner quelques bonbons. Là, c'est le dernier avant la campagne électorale. Alors, accès à la propriété, tout ça. Mais moi, j'ai plutôt envie de te parler du folklore de ces budgets-là. Parce que
c'est les souliers,
connu.
Là, puis...
Les souliers, puis le secret. On va parler de deux affaires. Les souliers, d'abord. J'ai eu beau chercher, puis ça fait longtemps que j'essaye de savoir. J'ai fouillé encore ce matin. Il n'y en a pas d'explication des nouveaux souliers. Premièrement, la plupart de nos traditions parlementaires viennent de Grande-Bretagne. Alors, on pensait que un ministre des Finances, celui qu'on appelle le chancelier de l'échiquier en Angleterre, devait porter des nouvelles chaussures, puis c'est ce qu'on a importé ici. C'est pas vrai! Hein? La première fois qu'un ministre des Finances a choisi d'avoir des chaussures neuves, il n'a jamais expliqué pourquoi, mais il s'en est vanté, c'était en 1960. Le ministre des Finances, Donald Fleming, qui travaillait dans le gouvernement de John Diefenbaker.
Puis ça a été importé dans toutes les législatures du Canada.
Oui, puis après ça, ben, tu vois, en 63-65, c'était un certain Walter Gordon dans le gouvernement de Lester B. Pearson. Lui, il n'a pas suivi la nouvelle soi-disant tradition. En 66, Mitchell Sharp, l'espèce de mentor de Jean Chrétien, ministre des Finances, lui a repris la tradition. Et là, en 1979, John Crosby, ministre des Finances de Joe Clark, le très court gouvernement de Joe Clark, lui, il avait un peu joué avec la tradition. Au lieu d'acheter des chaussures neuves, il avait acheté des moclocs venus des peuples autochtones de Terre-Neuve dont il était un représentant. Et puis finalement, tu sais, c'était devenu, bon, moi, cette année, je vais vous montrer, je mets des running shoes, parce que je mets des souliers de course, parce que je veux montrer que je suis un gars qui va vite. 1994, Paul Martin, lui, est taillé avec des bottes de construction, pour montrer que c'était le gros travail pour écraser le déficit une fois pour toutes. Mais le reste de la tradition, il n'y a pas d'explication. Elle n'est pas toujours suivie. Jim Flaherty ne l'a pas toujours fait. Michael Wilson ne l'a pas toujours fait. Mais c'est une tradition. Mais ce qui est plus intéressant, oui, vas-y.
Ce qui est étrange, c'est que ça soit en venue dans les législatures provinciales.
Eh oui, c'est assez étonnant.
Mais dans le fond, c'est une invention d'un ministre fédéral en 1960.
Voilà.
Puis à partir de là, tout le monde a trouvé que c'est un bon outil de propagande pour montrer ce qu'il y a dans le budget.
Oui, tout à fait. Mais ce qui est plus amusant, je suis convaincu, pour nos auditeurs, c'est le secret entourant le budget, qui est une notion pas mal dépassée à l'heure actuelle. Mais autrefois, c'était d'une importance capitale, comprends-tu?
Écoute, moi, je me rappelle, me semble qu'un budget a dû être lu précocement.
Parce qu'on avait
laissé traîner à la porte de l'imprimerie des copies.
Ben, tu vois, je voulais commencer par un autre, je vais commencer par celui-là, puisque t'en parles. 1989, le budget de Michael Wilson, un budget extrêmement important parce qu'il comportait des hausses de taxes de 9 milliards de dollars puis plein de coupures. 1989, Doug Small, de Global Television, qui est un ami à moi d'ailleurs, reçoit un coup de téléphone de quelqu'un qui lui dit « Combien t'es prêt à payer pour que je te donne le budget? On est la veille du budget. » Ben, Doug Small dit « Nous, on paye pas pour aller chercher de l'information. » Le même gars s'est essayé avec une autre station, CJOH, qui est l'affilié de CTV dans la région d'Ottawa. Même réponse. Alors, tout à coup, Doug Small reçoit un téléphone du même gars qui dit « Écoute, le veux-tu si je te le donne? » Doug Small lui dit « Ben, je dirais pas non. » L'autre, il donne rendez-vous dans une station de service, dans le stationnement à Hull, ce qui s'appelle Gatineau maintenant. Doug s'en va là. Puis tel qu'entendu, il baisse la fenêtre de son côté. On est en hiver. Puis il lui donne une enveloppe brune. Doug Small fait 2-3 coins de rue, s'arrête, commence à regarder ça. C'est comme le budget en résumé, qui est d'habitude un document qui accompagne le document budgétaire. Il s'en va immédiatement, il embarque en ondes en direct à Global Television, émission spéciale, toute l'affaire. Puis il lit le budget. Oh boy! Là, m'a dit, c'est le branle-bas de combat. J'étais dans le cabinet du premier ministre à cette époque-là. Mulroney était furieux, tu peux même pas imaginer à quel point il était furieux. Et il avait parlé d'un acte illégal, d'un acte criminel de la part de Doug Small, et il avait donné ordre à Michael Wilson de convoquer les médias au Théâtre national de la presse et de lire le budget là, une heure après qu'il a été diffusé à Global. Okay. Donc, annuler tout ce qui était préparé pour le lendemain. Doug Small, à un moment donné, il a été arrêté. La police est venue l'arrêter.
Oh, oui?
Ah ben oui. Ils l'ont accusé d'avoir eu en sa possession un objet volé.
Okay.
Et là, il y a eu un procès. Un procès a eu lieu. Et il a été exonéré, non seulement ça, mais la juge qui présidait à ce procès-là a dit ce qu'il a fait a été acte utile pour la connaissance du public de ce qui se passe dans son gouvernement. Oh boy! Mm-hmm. Mais il y en avait eu un autre qui était un peu plus farfelu, une autre fuite de ce type. La veille du budget, d'habitude, c'est le jour où le ministre achète ses souliers.
Ouais.
Met ses souliers, puis parfois, il va se mettre là avec son budget dans ses mains, ce qui titille le monde, tu vois le dessus, c'est tout ce que tu vois. Et c'est Marc Lalonde qui est ministre des Finances. On est le 19 avril 83. Lalonde s'amuse avec son budget pendant qu'il y a des caméras de télévision qui tournent. Tu sais, puis il tourne les pages comme on s'amuse. Mais à un moment donné, il s'arrête sur une page, mais pas vraiment ouvert comme ça. Juste ouvert un peu, là. Il y a une caméra de télévision qui, sans s'en rendre compte,
Zoom.
C'est le caméraman Tom Michalak, qui est un ami à moi, qu'on appelle, je sais pas pourquoi, il s'appelle Bingo, là, mais Bingo a sa caméra. Il arrive dans la salle de montage, il gèle l'image, puis il voit quoi? Le chiffre du déficit. Wow! Alors, le chiffre, c'était un déficit de 4,6 milliards de dollars. Et là, c'était la veille du budget. Ce chiffre-là, tu vois, CTV prend l'image, la grossit, met tout ce qu'ils peuvent pour mettre en évidence le chiffre 4,6 milliards. Et là, c'est le grand branle-bas. Est-ce que le ministre des Finances devrait démissionner parce que le budget a coulé? C'était ça qui était la tradition. Eh bien, voici ce que fait Marc Lalonde pour régler le problème. Le 20 avril 83, il a déposé son budget. Il l'avait fait réimprimer et il avait ajouté 200 millions.
Au déficit. La fuite nous a coûté 200 millions de dollars.
La fuite nous a coûté 200 millions de dollars. Et pas pire, celle-là. Parce qu'il faut savoir que le secret du budget... Maintenant, là, sais-tu comment c'est mort, en gros, la tradition du secret du budget? C'est sous Paul Martin. Il avait décidé, lui puis son équipe, qui coulait le contenu du budget pendant une période de à peu près 2-3 semaines. Pouf, il y avait une mesure qui apparaissait dans un journal. Pouf, il en avait une autre. Pouf, il en avait une autre.
Pourquoi gaspiller en une journée toutes tes cartouches?
Voilà. Et puis quand il arrivait puis qu'il livrait son budget, c'était comme un rappel de tout ce qui leur avait été annoncé par des fuites dans les grands quotidiens. Tout le monde avait sa fuite, tout le monde jouait le jeu. Mais autrefois, avant qu'on en vienne là, le secret du budget, là, c'était absolument incroyable. Faut savoir que dans le cas de Doug Small, ce qui s'est passé en 1989, à cette époque, le budget était toujours imprimé par une entité qui s'appelait l'imprimeur de la reine. Ça faisait partie des traditions, c'était une institution fédérale. Et c'est à l'imprimeur de la reine qui avait eu un problème d'impression, de couleur, et ils avaient jeté des milliers de copies.
C'est
une copie jetée que Doug Small avait eue. Et là, ils ont décidé qu'ils allaient renforcer la sécurité. Alors, ils ont fermé ça, ça a été privatisé, je pense, ça a été carrément privatisé, oui, l'imprimeur de la reine. Alors, ils faisaient un appel d'offres, puis ils faisaient signer des papiers tellement contraignants. Ça donnait à peu près ceci, là. À partir du moment où les données qui allaient être imprimées arrivaient sur les lieux du contracteur, l'imprimeur devait débrancher toutes les lignes téléphoniques, verrouiller toutes les portes pendant 27 heures. Il fallait qu'il y ait installé des lits de camp.
Ouais.
Il fallait qu'il y ait de la nourriture pour tout le monde parce que les portes ne s'ouvraient jamais, ni de l'intérieur, ni de l'extérieur. Il fallait que tout soit préparé. Et il y avait une douzaine de représentants du ministère des Finances vers toutes les issues, toutes les portes possibles pour s'assurer que personne n'allait sortir de là. Et non seulement ça, tous les employés... Pardon?
Faut dire quand même, à l'époque, que les fichiers n'arrivaient pas par fichier informatique sur une clé USB. Là. C'était plus compliqué.
Ben, rendu en 1990-91, oui. Ça arrivait sur des disquettes. Là. Autrefois, c'était des disquettes. Mais dès le moment que ça franchissait la porte, là, les mesures se décollaient. Ils faisaient, avant d'imprimer le budget, la GRC faisait une vérification de sécurité en bonne et due forme sur tous les employés de l'imprimeur. Et là, 27 heures de temps, tout était fermé. Ils étaient enfermés là jusqu'à ce que le ministre des Finances se lève en chambre à 4 heures de l'après-midi pour lire son budget. Et là, les portes s'ouvraient puis ils pouvaient sortir. Wow!
C'était des prisonniers politiques de l'époque.
Wow! Puis moi, évidemment, je veux juste revenir à un autre budget qui a, à mon avis, changé le cours de l'histoire au Canada. C'est le budget de John Crosby dans le ridicule gouvernement de Joe Clark de 1979. Crosby dépose un budget qui repose sur, évidemment, l'idée d'éliminer le déficit. Et pour ce faire, il annonce une taxe de 18 cents le gallon d'essence. On était encore au gallon en 1979. 18 cents le gallon d'essence. Le gouvernement est minoritaire. 18 cents le gallon d'essence en taxe, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup dans cette époque-là en particulier.
Ben, parce on devait que payer 40 cents le gallon?
À peu près 40-50 cents, oui. Alors, c'est énorme. C'est énorme. Là, comprends-tu? Puis le thème, c'est en anglais, il disait « short-term pain for long-term gain ». C'était ça le slogan, c'est-à-dire une douleur passagère pour un gain à long terme extraordinaire. Mais le monde, il n'y avait pas pantoute envie, à la veille de Noël, de se mettre à avoir une augmentation de l'essence d'à peu près 25 %. Ils ont dit non. Alors le budget, 4 jours ou 5 jours plus tard, a été défait. Et quand il y a une défaite sur un budget... C'est la tradition du parlementarisme britannique. Le gouvernement démissionne et doit aller déclencher des élections. Alors, il a été battu en chambre, son budget. Ça avait été rocambolesque. Il y avait 6 députés du Parti du Crédit Social qui avaient été élus en 1979, à la tête desquels se trouvait un certain Fabien Roy,
oui,
de la Beauce. Et eux autres, ce qu'ils voulaient, c'était le statut de parti reconnu à la Chambre des communes. Puis Joe Clark voulait rien savoir. Alors, à un moment donné, quand ils se sont retrouvés, Joe Clark, ça y prenait les 6 votes. Ça lui prenait les 6 votes. Fabien Roy a réitéré sa demande. Joe Clark a dit non. Là, Fabien Roy et sa gang se sont dit, est-ce qu'on peut, nous autres, avec 6 députés, écraser le gouvernement? Non, pas vraiment. On n'a pas la légitimité, mais on va faire autrement. On va s'abstenir. Mmh. Ça revenait au même. Ils se sont abstenus. Le vote a eu lieu. Joe Clark a été battu.
On s'est ramassé en élection au mois de février.
On s'est ramassé en élection la veille de Noël. Je me souviens, moi, j'étais journaliste. Je suis parti dans l'avion de Joe Clark le 15 décembre. Mmh. On était rentré à Ottawa le 23. Et l'élection avait eu lieu le 18 février. Et pourquoi est-ce que cela a changé le cours de l'histoire? C'est parce que c'était au moment où le Parti québécois, le gouvernement de René Lévesque, s'apprêtait à déclencher son référendum.
Ah.
Et on s'entend généralement pour dire que si Joe Clark avait été premier ministre, le référendum aurait passé. Parce que Joe Clark, les Québécois, on a beau dire, on le trouvait sympathique, nous, les gens dans les médias, pas moi, je l'ai jamais trouvé bien sympathique, mais c'était très à la mode de dire ça, mais le fait est qu'il y a eu 12 % aux élections.
Ouais.
Alors, en ramenant Trudeau, et c'est Trudeau qui avait gagné le référendum, ouais, par 4 célèbres discours, dont deux d'entre eux, je les avais couverts. C'était un au centre Paul Sauvé qui était un des grands discours politiques que j'ai pu voir dans ma vie. Et évidemment, on connaît le résultat, 60-40 pour le non.
Donc tout ça, c'était la faute de Crosby et du gouvernement Clark qui a été un peu suicidaire.
Qui a été carrément suicidaire. Téméraire n'est même pas suffisant. Le mot, là, le bon, c'est suicidaire. Veux-tu me dire qu'un gouvernement minoritaire, comment t'arrives à dire, je vais... M'a dire aux gens, regarde, m'a vous faire mal pendant un petit bout, mais à long terme, ça va être bon. Faites-le, votre essence va augmenter de 25-30 %. Les gens ont dit non, non. Et Joe avait mangé toute une volée aux élections, là. Il s'était retrouvé au Québec avec un député, Roch Lassalle.
C'était lui.
C'était le seul.
Oui.
C'était le seul.
À l'époque, on disait que s'il y avait tant de secrets autour du budget, c'était pour éviter à certaines personnes de profiter d'informations privilégiées qui leur permettaient de mettre à l'abri de l'argent ou de
profiter avant tout le monde de certaines mesures. C'est vrai, tout ce que tu dis là demeure vrai.
Mais c'est encore vrai aujourd'hui d'abord?
C'est encore relativement vrai aujourd'hui. Il y a encore ce qu'on appelle un lock-up, c'est-à-dire un endroit où les journalistes sont emprisonnés pendant jusqu'à 4 heures de l'après-midi. Et on leur sert à manger, puis il y a des gens du ministère des Finances qui sont là pour leur expliquer le contenu. Puis à 4 heures, quand le ministre se lève, les barrières se lèvent aussi. Sauf que l'idée du secret, d'abord Paul Martin, comme je l'ai dit tantôt, qui coulait à mesure.
Ouais.
Et Stephen Harper, pas fou, il avait compris que c'était une bonne méthode. Il a fait la même chose aux autres. Ils ont fait la même chose aux autres aussi. Ils bénéficiaient pendant quasiment 3 semaines de temps du contrôle de l'agenda politique en sortant les mesures qui allaient être dans le budget. Alors, le secret, maintenant, théoriquement, il est toujours aussi important. Mais en pratique...
En pratique, les politiciens eux-mêmes l'ont inventé.
Ben oui, c'est ça. Donc, c'est devenu, c'est pour ça que j'appelle ça du folklore, c'est devenu plutôt folklorique à l'heure actuelle, cette idée du secret du budget.
Merci pour nous rappeler les sources du folklore. Merci, Luc Lavoie.
Toujours un plaisir.
À demain.
Bye-bye.
Bye.